Ce matin, on commence une nouvelle série et moi et Pasteur Francis, on va apporter des messages dans cette série qui s'appelle « L'Évangile sans filtre ». Et l'Évangile, ce que ça veut dire, c'est « bonne nouvelle ». Fait que soyez à l'aise. On va parler d'une bonne nouvelle aujourd'hui, mais on veut le faire de façon vraiment... On veut que chacun d'entre nous on puisse comprendre bien l'Évangile pour être capable de le vivre, de le communiquer, pour être capable de saisir cette bonne nouvelle de Jésus et qui était fondamentale pour Jésus, qui était fondamentale pour l'apôtre Paul aussi et qui est même fondamentale dans même nos énoncés de vision au Carrefour. Et je vous en présente un. On a 4 énoncés de vision. Je vous en présente un ce matin. On l'a à l'écran. Ça veut dire d'être une église centrée sur Jésus, guidé par la parole, qui vit et qui communique l'Évangile au quotidien. Là, c'est le temps de dire « Amen ». Ah, c'est bon. Vous avez chanté fort tantôt, fait que je savais que vous étiez capable. Alors vraiment, il y a cette idée-là de s'émerveiller, d'être ébloui par cet Évangile qui est si précieux. D'ailleurs, Jésus, et on le voit dans les Évangiles, mais dans l'Évangile de Marc, même Marc, son Évangile va commencer comme ceci, dans Marc 1:1. « Voici le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Et pour lui, ce qu'il est en train d'écrire, c'est l'Évangile. Qu'est-ce qui est cette bonne nouvelle? L'histoire de Jésus, c'est l'Évangile. Qu'est-ce que ça signifie? C'est cette bonne nouvelle. Et même Jésus va lui-même aussi prêcher cet Évangile, prêcher cette bonne nouvelle. Le message de Jésus, et on le voit dans Marc 1, un petit peu plus loin, alors que Jésus, ça veut dire après que Jean-Baptiste eut été arrêté, Jésus allait en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle, là, vous le voyez un peu sur l'écran, mais bonne nouvelle, là, c'est vraiment un autre mot utilisé pour évangile. La version Darby va le dire « Après que Jean eut été livré, Jésus va en Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant « Le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché. » « Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Croyez à l'Évangile. L'Évangile, c'est fondamental. Ce n'est pas quelque chose, un accessoire. Ce n'est pas quelque chose qui est une bonne pensée. C'est le cœur même de la foi chrétienne. C'est le cœur même du message, de la vie de Jésus, de ses enseignements. Et même à un tel point que dans Marc 8, Jésus va dire la chose suivante, et je vais lire juste dans la version Darby. Vous connaissez probablement la version second 21, mais vous allez comprendre, car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Et quiconque perdra sa propre vie pour l'amour de moi et de l'Évangile, la sauvera. Est-ce qu'on peut comprendre l'importance que revêt l'Évangile au point tel que Jésus va dire, ça vaut la peine de perdre sa vie pour l'amour, pour notre amour pour le Seigneur et l'Évangile? C'est quand même assez fondamental, n'est-ce pas? Vous ne donneriez pas votre vie pour donner une pomme à votre enfant? Ben peut-être, je ne sais pas. Vous me regardez comme, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Pourquoi qu'on ferait ça? Non, on voudrait donner notre vie pour quelque chose qui est précieux, qui est important, qui est puissant. Jésus est en train de dire, ça vaut la peine de perdre sa vie pour l'Évangile et pour l'amour de Christ. Fait que là, je vais juste vous mettre en contexte que l'Évangile, c'est pas banal, c'est pas quelque chose de, c'est pas un sujet périphérique. C'est pas genre, est-ce qu'il faut s'habiller de telle façon qu'on vient à l'église ou pas? Quel style de musique qu'on préfère ou qu'on préfère pas? C'est quelque chose vraiment de fondamental. Et l'apôtre Paul va faire de l'Évangile dans les différentes lettres. Il va en faire quelque chose de central, quelque chose d'important. Puis je vous lis quelques versets en introduction à où est-ce qu'on veut aller ce matin. Je veux juste qu'on comprenne déjà en partant qu'on parle de quelque chose d'important. OK? Ça va? On parle toujours de choses importantes ici, sauf quand je parle de barbecue. Ça, c'est pas si important. Mais quand on parle la parole de Dieu, c'est important et l'Évangile, c'est plus qu'important. Romains 1:16 va dire la chose suivante. « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » Est-ce qu'il y a des juifs et des non-juifs ici ce matin? Ah, tout le monde, théoriquement? Ouais. Là, ceux qui ne savent pas qu'ils sont juifs, ben là, c'est correct. Faites pas ancestors.com, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de ça. Mais vous pouvez vous qualifier dans le non-juif. Fait que tout le monde est inclus, OK? Romains 1:16, j'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4 va dire la chose suivante. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Là, on est dans un autre mode. Là. On est dans le mode de comprendre que l'évangile projette une telle lumière. Et cette lumière-là n'est pas juste un bulbe super puissant. C'est la gloire de Christ qui rayonne à travers l'évangile, la bonne nouvelle dont Jésus a été le témoin, le proclamateur, celui qui l'a accompli de A à Z. J'aime beaucoup cette expression-là. Briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 15, va dire la chose suivante. « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui, par l'évangile, que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. » Petit condensé de l'Évangile, Christ est mort pour nos péchés. Conformément aux Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Amen. L'Évangile de Jésus-Christ. Et j'aimerais peut-être le synthétiser en six énoncés ou six façons de l'exprimer. Bon, chaque mot n'a pas été pesé pendant 3 semaines, là, mais quand même, c'est une démarche pour bien comprendre. J'aimerais dire qu'une bonne nouvelle sans contexte n'est qu'une nouvelle. Je vais le répéter. Une bonne nouvelle sans contexte n'est qu'une nouvelle. Puis vous allez comprendre pourquoi. Alors, première chose que je veux mentionner ce matin, je veux faire un condensé de l'Évangile pour qu'on puisse bien le comprendre, qu'on puisse être bien le communiquer et qu'on puisse être capable de le vivre. D'ailleurs, quand notre sœur parle de pardonner comme Christ nous a pardonné, c'est une façon concrète de vivre l'Évangile et la bonne nouvelle de Jésus. Si Christ a pardonné une dette qui ne se compte pas, qu'il l'a pardonné complètement, comment pourrions-nous ne pas pardonner celui qui nous offense? Ça, c'est une façon de non pas juste entendre l'Évangile, mais de vivre l'Évangile de Jésus-Christ au quotidien. Alors, première chose, première base, Dieu est le roi. Ça commence bien, ça. Dieu est le roi. Il nous a merveilleusement créés à son image et pour sa gloire. Quelqu'un est d'accord avec ça ce matin? Ça va, vous êtes avec moi? Dieu est le roi. Les ados, c'est lui le boss, OK? Malheureusement, il y a une petite intervention qui est arrivée qui brise un peu tout ça. Et c'est le deuxième point, c'est nous avons péché. Et puis on peut le mettre, notre nature déchue en Adam, nos choix et nos fautes nous ont éloignés de Dieu. La relation entre Dieu et l'être humain est brisée et nous sommes privés de sa gloire. Vous vous rappelez, j'ai dit tout à l'heure que l'éclat de l'Évangile, c'était la gloire de Christ. On voit que dès la création, c'est la gloire. Dieu est le roi. Il nous a justement créé à son image pour sa gloire. Et là, ce qui se passe ici, c'est que à cause du péché, nous sommes privés. Nous sommes privés de cette gloire-là, de cette gloire qui a créé et qui est merveilleuse et qui rayonne jusqu'au fin fond de l'univers. Nous avons péché. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mais c'est un reality check qu'on a besoin de faire chacun de notre côté. C'est une prise de conscience que c'est pas vrai que nous, on est complètement blanc comme neige qu'on arrive dans ce monde-ci. C'est pas vrai qu'on a été parfait dans tout ce qu'on a fait. Mais même plus loin que ça, il faut comprendre que dès le départ, on était éloigné de Dieu. À cause de la faute d'Adam, mais pas juste à cause de lui, à cause de notre propre désobéissance, à cause de notre indifférence, on est devenu ennemi de Dieu. On a péché, puis on est privé de sa gloire. Ce qui nous mène à la troisième. Au troisième énoncé, c'est « La mort est une juste sanction ». Là, vous allez me trouver intense ce matin. Quand j'ai dit qu'on avait une dette, puis que Christ a payé, il a purgé notre sentence. Quelle a été la sentence que Jésus a endurée pour nous? La mort. Ah! Ce qui nous fait comprendre à travers les Écritures, mais à travers également le sacrifice de Jésus, que la juste sanction de notre péché, c'est la mort. C'est une conséquence équitable. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment ça dire, c'est pas juste. Mais là, c'est une conséquence équitable du péché, c'est la mort, la condamnation éternelle loin de la présence de Dieu. C'est une juste sanction. Puis là, vous dites, oui, mais moi, je n'ai pas tué personne. J'aimerais vous mettre au défi de réfléchir à combien de personnes vous auriez aimé qu'ils soient mortes parce qu'ils vous ont fait du mal. Puis ça se pourrait que vous soyez moins blanc que vous pensez l'être. Je n'ai pas dit que vous faisiez des scénarios, mais tu sais, dans notre cœur, l'idée de « j'aimerais ça qu'il n'existe plus, lui. » Ouais, OK. Il y a des fois qu'on, dans notre vie, on focus tellement sur les actions. Ben moi, je n'ai pas tué personne, je ne l'ai pas fait, mais on oublie que le cœur est aussi important. Et lorsqu'on se rend compte que Dieu est parfait et que nous nous sommes détournés, ce n'est pas juste une question d'action, c'est une question de cœur qui s'est détourné, qui nous a éloignés loin de la présence de la gloire de Christ. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est pour ça que je vous dis qu'une bonne nouvelle sans contexte, c'est juste une nouvelle. C'est que Dieu a donné son Fils, Jésus. Amen. Le sacrifice de Jésus et sa résurrection nous permet un accès à la vie éternelle. Il a annulé la malédiction sur nous en devenant malédiction sur la croix pour nous. Alors qu'on ne l'a pas demandé, alors qu'on ne l'a pas mérité, Dieu a donné son Fils, Jésus. Ce qui nous amène au cinquième, que Dieu restaure notre relation avec lui. La vie éternelle est un don gratuit à tous les rachetés. Ceux qui croient, ceux qui se repentent et placent leur confiance en Jésus en tant que sauveur, seigneur, roi, et j'ajouterai trésor de leur vie. Et trésor de leur vie. Souvent, dans notre jargon évangélique, on va dire, il est seigneur et sauveur. Est-ce que c'est bien? Absolument. Il est notre sauveur pour vrai, il est notre seigneur, il est notre roi, le maître de notre vie. Mais j'aimerais qu'on puisse regarder à l'éclat de la gloire de l'évangile de Christ et dire, « Seigneur, tu es le trésor de ma vie. » Le trésor, parce que ce que tu as accompli, c'est absolument extraordinaire. Il n'y a personne qui avait l'habileté de purger notre sentence comme lui l'a fait. Et à cause de ça, cette relation qui était brisée, brisée de la gloire, loin de la gloire de Dieu, et là, on s'en va dans un mode où est-ce que notre relation avec Dieu peut être restaurée, où est-ce qu'on peut voir la gloire de Christ et s'émerveiller, admirer, vivre cette gloire-là de l'Évangile de Christ. Et ça ne se termine pas là. La dernière chose que je veux vous mentionner, c'est que Dieu nous transforme. Par la nouvelle naissance, une communion vivante avec lui, nous sommes constamment transformés à sa ressemblance par son Esprit qui habite en nous. Nous vivons pour la gloire de Dieu jusqu'à son retour. Amen. C'est une bonne et une très bonne nouvelle et une très mauvaise à la fois. C'est-à-dire que c'est une mauvaise nouvelle quand on comprend l'état dans lequel on était. Là, je parle à des gens qui ont accepté Jésus dans leur vie, qui ont passé par le bain de la nouvelle naissance, qui ont été transformés, qui ont vécu ce pardon, cette libération de notre conscience. Mais il y en a peut-être ici qui ne l'ont pas connu encore. Et ce matin, j'aimerais ça illustrer l'Évangile à travers une parabole que Jésus a donnée. Okay? On va regarder les 6 points. Je pense qu'on a une diapo, là, un petit résumé. Dieu est le roi, nous avons péché. La mort est une juste sanction. Dieu a donné son Fils Jésus. Dieu restaure notre relation avec lui. Dieu nous transforme. Et peut-être juste regarder ça, là. Dieu est pas mal dans tout ce qui est beau, là, c'est Dieu qui le fait. Puis tout ce qui est moins beau, c'est pas lui qui le fait. C'est nous. Il faut être centré sur Dieu, OK? Mais je veux utiliser une parabole que plusieurs connaissent. Cette parabole-là s'appelle la parabole du fils prodigue, mais on pourrait l'appeler également la parabole du père prodigieux ou la parabole du père miséricordieux. Mais dans l'histoire, on l'a souvent appelée la parabole du fils prodigue. Et j'aimerais que, alors qu'on va lire cette histoire-là, cette parabole-là, j'aimerais que vous puissiez voir l'Évangile à travers les lunettes de cette parabole-là. De voir l'Évangile à travers le fils prodigue. Et j'aimerais qu'on puisse tourner ensemble, si vous avez votre Bible ou votre application, tournez avec moi dans Luc 15. Et on va lire quand même du verset 11 au verset 32. Et puis, on va lire ça ensemble. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment ça être bien visuel devant eux. Je vous invite à tourner avec moi dans Luc 15. Alors, ça va comme suit. Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. » Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Ça commence pas bien, hein? Quand je vous disais tantôt, des fois, nos pensées, là, ici, il ne veut pas tuer son père, mais il aimerait que son père soit mort parce qu'il veut l'héritage. Comprenez? Bon. « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Verset 17, il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Alors il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le père lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt. » Ça représente la filiation à la famille du maître. « Et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a trouvé, il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit, le suppliait d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » Alors mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. C'est une histoire magnifique. C'est une histoire vraiment magnifique. Et on peut voir que Jésus, même à travers ses histoires, ses paraboles, ça sent l'Évangile, ça goûte l'Évangile, ça transpire ce message central de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si on commence avec cette idée-là que Dieu est le roi qui nous a merveilleusement créés à son image, bien, on peut en déduire que si le Fils est là, c'est qu'il a toujours bien été engendré, hein? Il est le fils de quelqu'un. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'a pas juste été aimé à son retour, il était aimé avant qu'il parte. Et honnêtement, il n'y a probablement aucune autre raison que l'amour qui pourrait pousser un père, alors que son enfant lui dit « je t'aimerais mieux mort », de lui remettre quand même l'héritage. Vous savez ce que plusieurs pères auraient fait? « T'es-tu malade? Prends ton trou et écrase! » Et ça leur aurait été une réponse juste. Ça aurait été une réponse juste à l'affirmation du fils. On peut se rendre compte que le fils prodigue n'a pas juste été aimé après, mais il était déjà aimé avant. Il fait partie intégrante de la famille. Même, il y a un rôle dans la famille. Alors, il y a cette idée-là que ce fils, Dieu est le roi, le père qui représente un peu Dieu dans cette histoire-là, bien, un peu pas mal, qui représente Dieu dans cette histoire-là, on voit que justement, le fils est là, il a un rôle, il a une appartenance, il est aimé, il fait partie de la famille. Ça fait partie de la création de l'être humain. Il y a un rôle direct où est-ce que Dieu va créer Adam et Ève et va leur dire « soyez des gestionnaires de toute la création. J'ai créé pour ma gloire. Vous avez un rôle, vous êtes pleinement aimé, il y a de l'abondance. » Mais la deuxième étape, c'est que nous avons péché. Hein? Et puis, comment je dirais ça? Le fils, et on voit ses erreurs, hein, elles sont flagrantes. Là, nous, on dit, ah, OK, il a dépensé tout son argent avec les prostituées, c'est épouvantable. Vouloir la mort de son père, c'est pas pire non plus. Hein? C'est quand même assez intense. Mais non seulement, c'est comme si dans sa tête, le meilleur endroit où être, c'est d'être le plus loin possible de son père. C'est d'être le plus loin. Il va partir pas juste à côté chez le voisin faire ses niaiseries. Il va aller le plus loin possible. Et ça, ça nous parle de quelque chose qui est fondamental et qu'il faut qu'on comprenne pour nous. C'est qu'à quelque part, le fils voulait être indépendant de son père. Il voulait rien avoir à faire avec lui. Et c'est notre nature en Adam, c'est exactement ça. Je suis capable tout seul. Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Regarde bien du ciel, là, montrer comment ça marche, moi. Et ça, c'est dans notre nature humaine, cette idée d'indépendance, ou cette idée de « je n'ai pas besoin de Dieu », c'est vraiment au cœur de notre nature humaine. Et on a besoin de revenir à la maison, et on va en reparler un peu plus tard. Mauvais choix, indifférence, indépendance, débauche. Il a méprisé littéralement l'héritage. Pouvez-vous imaginer, vous êtes un père et il y a un héritage assez grand pour que votre fils puisse avoir le goût de le recevoir? Vous avez travaillé pendant des années, vous avez travaillé fort. Et ce que vous vous rendez compte, c'est qu'au premier jour, le jeune prend l'argent, mais il la dépense comme s'il n'avait pas travaillé, comme si c'était méprisable. C'est quelque chose, là. C'est pas banal. C'est quelque chose. Et puis, ben, nous, comme êtres humains, avant de connaître Dieu, t'es indépendant, pas besoin de toi. Laisse faire. Je veux pas t'entendre. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de mépriser ce que Dieu a créé. Nous, on a été créé à l'image de Dieu. On est en train de mépriser ça en disant, « C'est toi qui m'as créé, mais je ne veux rien savoir de toi. » Est-ce que vous comprenez que c'est la même chose que de mépriser un héritage qui a été travaillé de dur labeur? Comprenez ce que j'essaie de dire? Vous voyez peut-être un peu le lien entre l'Évangile et justement cette histoire-là. Et à quelque part, on passe au troisième point, la mort est une juste sanction. Quand on regarde tout ce qui s'est passé, on peut voir la trajectoire dans laquelle le fils est en train de se diriger. En fait, pour un juif, là, les porcs, là, nous, on aime beaucoup le bacon. Là. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le bacon. Pour nous, c'est positif. Mais pour un juif, les porcs, c'est un animal que tu ne veux pas avoir. C'est un animal impur. Tu veux non seulement pas le manger, mais ça ne te tente pas de le garder non plus. Hein? Ça ne te tente pas de le surveiller. Et pire que ça, ça ne te tente pas de manger la bouffe de l'animal impur que tu ne toucherais même pas avec une perche de 10 pieds. Il désire avoir les caroubes que les porcs sont en train de manger. Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point c'est plus bas que bas pour un juif? C'est énorme! C'est énorme, mais ça nous montre la trajectoire que ce jeune homme-là, qui était bien confiant, j'ai un héritage, j'ai de l'argent, ça va être super. Et là, ça dégringole, ça dégringole, ça dégringole, ça dégringole. Jusqu'au moment où est-ce qu'il est tellement pauvre qu'il veut de la bouffe de cochon. Vous avez déjà vu de la bouffe de cochon? Vous avez déjà été dans une ferme comme ça? Vous savez que les éleveurs de porc, ils vont prendre tout ce qui reste. Ils lancent ça, puis ils savent qu'il ne restera plus rien, peu importe ce qu'ils ont donné dans le tas. Il était rendu là, la trajectoire de sa vie était littéralement la mort. Littéralement la mort. Pauvreté, précarité. Et puis, il était loin de la présence de son père. Il avait perdu son statut de fils. Tout ça était là. Mais Dieu a donné son fils Jésus. Dans cette histoire-là, c'est intéressant que quelqu'un est mort pour que d'autres puissent célébrer. Le veau est mort pour qu'il y ait une pleine réjouissance. Et j'aimerais vous faire comprendre que Christ est mort pour qu'on puisse se réjouir avec lui. C'est ça l'histoire de Jésus, hein? Et puis, le père qui a vécu tout le déshonneur, il court vers lui. Il court se pitcher dans le gars le plus non méritant qui existe. Et moi, je vois une image très claire de Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour qu'il vienne sur la terre pour nous. Cette idée de faire un geste non mérité, faire un geste d'enthousiasme, d'amour, c'est vraiment ce que Christ a fait, même pour celui qui avait trahi la famille. Le Père a compassion de celui qui l'a renié. Dieu a tant aimé le monde. Et Dieu, dans sa grâce, restaure la relation avec le Fils. Il va lui remettre une bague, il est membre de la famille. Il va lui mettre des sandales, tu n'es plus un serviteur, tu es un fils. Il va prendre les plus beaux vêtements, il va le revêtir alors qu'il était tout crotté. Quand tu es rendu à vouloir manger de la bouffe de cochon, c'est que tes vêtements ne sont pas propres. Parce que tu t'es roulé dans la boîte pour avoir des caroubes. Il lui met des vêtements, il l'accueille à bras ouverts, il tue le veau gras et surtout, il lui fait une place dans sa maison. La relation qui était perdue, brisée. Étais-tu brisée à cause du père, la relation? Elle était brisée à cause du fils. Mais c'est le père qui prend l'initiative de restaurer la relation. Ça nous parle de l'Évangile, ça. Ça nous parle vraiment de l'Évangile. Et à quelque part, on voit la repentance du fils. On voit aussi que le fils, bien qu'il voulait la mort de son père, il croit encore à la bonté de son papa. Il croit au point de dire, « Je me rappelle de la maison, il y avait de la bouffe, mon père était là, c'était pas un tyran. Et si je revenais? » Et puis Dieu nous transforme. Dieu nous transforme par la nouvelle naissance. C'est drôle parce que le fils aîné, celui qui a chialé à la fin, nous montre exactement ça ressemble à quoi un cœur non transformé, non régénéré, qui peut être dans les entourages, mais qui n'est pas, il a pas une relation proche de son papa. Mais ne pensez-vous pas que le fils prodigue, quand il revient travailler sur la terre familiale, il n'a pas une mentalité différente? Il n'a pas un cœur différent? L'histoire le suggère, on ne le lit pas, mais il y a une mission de vie retrouvée, il y a des actions nouvelles, il y a une malédiction qui est devenue bénédiction, il y a une faute qui est devenue pardon, il y a une tristesse qui est devenue réjouissance, puis il y a une pauvreté qui est devenue abondance. Cette histoire-là nous montre que tout a rapport avec Dieu dans l'Évangile. L'homme détruit, se détourne et Dieu restaure. Et la même chose dans la parabole du Père prodigieux. Le fils détruit, se détourne, mais le père restaure. Et je veux vous partager quelque chose de bien important ce matin. C'est que quand on regarde l'Évangile, quand on contemple l'œuvre de Christ et qu'on considère la grandeur de l'amour de Dieu, là, il n'y a pas rien d'autre que l'amour qui peut dire à un père, va en courant vers ton fils qui a détruit ton héritage, qui te voulait mort puis qui a fait toutes sortes de niaiseries. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'autre chose que l'amour pour expliquer ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir une vision égocentrique de l'Évangile ou une version christocentrique de l'Évangile. Et je vais vous dire la différence entre les deux. Égocentrique ou christocentrique. Je vous partage la vision égocentrique, c'est de dire « Wow! Jésus a payé un prix de fou pour qui, parce qu'il m'aime d'un amour extravagant. L'Évangile m'apporte une telle valeur personnelle, j'ai du prix à ses yeux. Amen! C'est pas faux ce que j'ai dit, hein? Mais c'est pas totalement vrai. Je vous donne la version christocentrique de l'Évangile. Ça veut dire, waouh! Jésus a payé un prix fou par amour pour que je puisse avoir le privilège d'être près de lui, pour que je puisse gagner Christ. L'Évangile m'apporte le privilège de vivre pour celui qui a une valeur incommensurable, Christ. Christ a du prix à mes yeux. Il y a parfois que dans notre société, dans notre façon de voir la vie, dans notre vision du monde, on voit le sacrifice de Jésus en disant, « Wow! Jésus me donne de l'estime de moi-même. C'est extraordinaire. J'ai du prix à ses yeux. » Et ce n'est pas faux. Christ est mort pour chacun de nous. Il avait une valeur incommensurable et il y a une grande valeur. Vous avez une grande valeur à ses yeux. Mais le plus grand privilège de l'Évangile, ce n'est pas de booster votre estime de vous-même. Le plus grand bénéfice de l'Évangile, c'est de gagner Christ. C'est de pouvoir vivre avec celui dont la relation était brisée dans notre relation et maintenant on peut être pleinement réconcilié avec Dieu. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de gagner Christ. Et je vais inviter les musiciens parce que là, je suis en train de m'emballer. Là. Mais venez m'aider. Mais c'est de gagner Christ. Si l'Évangile, vous voyez le fils prodigue en disant, c'est bien le fun pour lui. Son père, il a prouvé qu'il avait beaucoup de valeur. On manque le trois quarts de l'Évangile. Le fils prodigue, c'est pas sa valeur qui est importante. C'est qu'il est de retour à la maison. C'est qu'il est près de son père. Pendant toute sa vie, il a essayé d'aller le plus loin, d'être indépendant. J'ai pas besoin de toi, j'ai besoin de ton cash, mais rien d'autre. Mais à la fin de l'histoire, son plus grand bénéfice est de revenir dans la maison de son père et d'être près de lui à chaque jour et de pouvoir servir celui qui l'a sorti du trouble, celui qui l'a pardonné, celui qui a fait même goûter le veau gras engraissé, celui qui l'a sorti du bourbier dans lequel il était. Ce n'est pas juste l'idée qu'il est sorti du bourbier, c'est qu'il maintenant il a le privilège de vivre à côté de lui à chaque jour et de le servir. L'apôtre Paul va le dire de la façon suivante. Il va dire dans Philippiens 3:8, il va dire, « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Le trésor, c'est Christ. Le trésor, c'est cette relation rétablie avec Christ. Et je vais finir là-dessus. Une bonne nouvelle sans contexte n'est qu'une nouvelle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais utiliser l'histoire du fils prodigue. J'aimerais vous dire la chose suivante, puis ça, c'est sans filtre, OK? Si on considère qu'on mérite d'être aimé, qu'on mérite d'être pardonné, vous savez quoi? L'amour de Christ est une nouvelle comme les autres. On est comme le fils aîné. On pense que ça nous est dû. Mais si on considère être aussi méritant que ce fils prodigue, tu sais, genre aucun mérite, qu'on est aussi méritant que le fils prodigue d'être pardonné, adopté, réintégré, ami et fils légitime, alors l'amour de Christ est une très bonne nouvelle. Quand on pense que ça nous est dû, ah ben c'est bien, Jésus est venu sur la terre, c'était vraiment bien de sa part, il a un beau cœur. Non, quand on comprend à quel point on est éloigné de Dieu, ben, on se rend compte que Jésus, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très, très bonne nouvelle. Parce qu'une bonne nouvelle sans contexte n'est qu'une nouvelle. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? J'aurais tant de choses à dire. Je vais garder ça pour la semaine prochaine. Mais j'espère qu'ensemble, on est capable de comprendre à quel point l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est Dieu qui a tout accompli. Et notre trésor, c'est de gagner Christ. c'est de gagner d'être proche de Christ. C'est de gagner un papa dans lequel on va être prêt et qui va non seulement nous laver, nous pardonner, nous purifier, il va nous donner une mission. Il va continuer de grandir. En fait, il va nous faire grandir en lui. Lui, il ne grandit pas, il n'a pas besoin de ça. Ce matin, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans ce lieu, que vous dites, moi, j'ai besoin d'être comme ce fils prodigue, j'ai besoin de revenir à la maison. J'ai besoin d'arrêter de vivre dans l'indépendance, dans l'indifférence, comme si l'amour de Christ m'était dû, mais j'ai besoin d'être comme le fils prodigue qui revient à la maison. Je veux reconnaître que je suis pécheur, je veux reconnaître que j'ai besoin de Christ dans ma vie. Je veux vivre l'Évangile ce matin.